Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Passage à niveau, ce dimanche 24 novembre. Et en effet, on va commencer par la langue française. Alors, on va commencer par parler de l'édition 2024 du Téléthon, le 29 et 30 novembre. Après, on va parler d'un cycle de projection des films, mais également de débats. Le titre, La Révolution en images, Révolution et décolonisation au Portugal, 1974-1977, qui est en train d'avoir lieu à l'Université Sorbonne Nouvelle. Paris 12. On parlera encore une fois de la première édition du Festival de cinéma portugais en La Perich du 29 novembre au 1er décembre après un livre Aristides de Sousa Mendes d'Éric de Petite Ville aux éditions Mais Moring. Et pour terminer, on ira jusqu'au Musée de l'Homme. Exposition événement Migration, une odyssée humaine du 27 novembre de cette année jusqu'au mois de juin de 2025. Mais déjà, mes amis, je vous laisse la parole à qui ? À Mika.
Bonjour, c'est Mika. Les 29 et 30 novembre, je vous donne rendez-vous pour le Téléthon 2024. Vos dons sont essentiels. Ils donnent aux chercheurs les moyens de poursuivre leur travail extraordinaire. Pour soutenir cette recherche qui sauve et change des vies, faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. Je compte sur vous.
Alors, Amalia Rafi, bonjour et merci d'être là, la coordinatrice du Téléthon du Val-de-Marne.
Bonjour et bon dia.
Tony Gam, le parrain, toujours fidèle au poste.
Toujours fidèle au poste.
Mmh. Bonjour. Alors, cette année, Amalia, le mot d'ordre, bâtir les traitements, combattre la maladie.
Oui, c'est ça. On est tous des bâtisseurs puisque on a réussi donc depuis de nombreuses années à créer une médecine que voilà personne n'y croyait, etc. Et la volonté de ces familles de malades qui ne voulaient pas se dire ben non, il n'y a rien à faire. Et donc avec des chercheurs et même je me souviens toujours d'un gamin qui avait dit c'est pas des chercheurs qu'il nous faut, c'est des trouveurs.
Tony, alors. Cette aventure, bon, c'est un marathon pendant 2-3 jours. Hein,
oui, je suis toujours heureux d'être là à ce moment. Bon, j'aimerais bien participer un peu plus, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais quand on voit les avancées sur la guérison des maladies, ça ne peut donner que du courage. Et les gens le voient et les gens le savent maintenant. Et donc leur participation est tellement importante que voilà, on est là. Je salue, c'est moi je suis une petite goutte d'eau dans l'océan. Je salue, c'est le travail pendant toute l'année d'Amalia.
C'est des milliers, des milliers de bénévoles.
C'est un boulot presque permanent en réalité. Moi je viens juste pour épauler, pour demander aux gens d'aller participer, regarder c'est bon, on avance, voilà.
Alors, on a quelqu'un avec nous, d'ailleurs, elle est en régie, donc tout ce qui touche les techniques aujourd'hui, elle est là, Maya Alouche, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci, bon, vous êtes de l'autre côté de la vitre, c'est vous qui commandez, là, bon, on est à vos ordres, c'est quoi de le dire. Alors, vous êtes une jeune femme, vous avez 32 ans, vous êtes atteinte de amyotrophie spinale de type 2. Alors, pour nos auditeurs, pourrait peut-être en résumé dire effectivement les limites que vous avez à cause de cette maladie.
Alors oui, bonjour. Alors l'amyotrophie spinale, c'est une maladie génétique musculaire. Donc je suis en fauteuil depuis toute petite. Mmh. Je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire de mes mains. Voilà, je ne peux pas bouger, mais depuis, grâce au Téléthon, depuis 2022, j'ai accès à un traitement qui me permet de retrouver quelques forces. Alors, je marche pas encore, je cours pas encore, mais je peux réécrire, je peux refaire des choses que je pouvais plus faire avant. Donc voilà, c'est fabuleux.
Voilà, comme tout à l'heure, bon, on parlait hors micro, vous pouvez bouger vos petits doigts.
Oui. Oui, je peux rebouger mes petits doigts que je ne pouvais plus bouger avant.
Et d'ailleurs, bon, j'ai reçu un mail et tout. Alors, Maya, vous n'êtes pas venue toute seule, vous avez un compagnon, il s'appelle Lovett. Peut-être expliquer à nos éditeurs, le décrire, parce que la radio, vous voyez, on passe en noir et blanc.
Oui, alors Lovett, c'est mon compagnon de vie, c'est un chien, un labrador qui a été éduqué par l'association Andy Chien. C'est un chien d'assistance qui me permet de... Il m'accompagne tous les jours, il m'aide psychologiquement et physiquement. Il est capable de faire 50 commandes, il peut ramasser des objets, aboyer sur commande, ouvrir des potes, des tiroirs, enfin faire plein de choses. Donc voilà, il m'accompagne au quotidien depuis 7 ans.
Voilà, donc c'est finalement, bon, quand on parle, bon, mais vous n'êtes pas venu tout seul, parce que vous avez aussi, qu'on appelle ça, des aides de vie. Bon, il y a autre chose, parce que la famille est là, devant nous, bon, elle prend des photos, elle regarde, mais c'est très important aussi, cette présence humaine, parce que vous en avez besoin de quotidienne pour avoir une certaine autonomie de vie, si je peux parler ainsi.
Oui, oui, bien sûr, c'est essentiel pour vivre, 24 heures sur 24. Je suis accompagnée d'auxiliaires de vie, celle qui est là aujourd'hui s'appelle Mariam.
Et, Marianne, c'est
Mariam.
Ça
Mariam.
Maria, pardon.
Mariam, et voilà, donc elle m'accompagne Mariam au quotidien. Et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, sinon je ne pourrais pas être là aujourd'hui avec vous.
Oui, c'est vrai. Bon, c'est elle qui a conduit la voiture, etc., qui a ouvert les portes arrière, parce que c'est une voiture adaptée. Alors, justement, le problème, bon, on a vu le problème tout à l'heure, c'est que votre fauteuil, il rentre pas dans les studios. Alors, c'est vrai que ici, ça a été construit en 1992, mais ça, je pense, c'est un gros problème pour vous quotidien, d'une façon quotidienne, pour vous déplacer quelque part. Souvent, il y a que des marches. Alors, des rampes, pas évidentes. Je parle même pas de prendre le métro, parce que la plupart des stations, contrairement à Londres, il n'y a pas d'ascenseur, et encore faudrait-il que votre fauteuil y rentre.
C'est ça, il y a eu beaucoup de progrès sur l'accessibilité, mais il y a encore beaucoup à faire. Et oui, c'est un vrai problème, hein, on doit s'adapter au quotidien. Mais heureusement qu'il y a quand même les choses qui bougent. On aimerait que ça bouge plus, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites.
Oui, non, mais écoutez, quand je vois les promesses, bon, le Téléthon, Maria, on le fait depuis, je sais pas, des années, je compte plus. Justement, et on pensait, Maria, bon, il y a eu des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. On pensait que ça allait aider à avancer un certain nombre de choses, parce que les lois en France, ça ne marque pas. Elles ont déjà plusieurs décennies qui ont été votées. Mais pourquoi? Parce que finalement, on ne se rend pas compte qu'il y a une bonne partie de la population qui a des handicaps, ou on a des choses qu'on ne peut pas faire comme tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on nous regarde? On nous regarde un petit peu, parfois, de travers. Ça enrage, ça.
Oh, on nous regarde de travers, oui. Après, il y a beaucoup de progrès quand même. Et voilà, je pense que oui, les Jeux Paralympiques vont aider à faire évoluer les choses. Et c'était des très beaux événements qu'il y a eu. Et voilà, on a l'espoir. De toute façon, avec le Téléthon, c'est ça, c'est l'espoir qu'on a toujours et encore pour tous. Donc voilà, on est dans l'espoir.
Après, il faut savoir que on parle des personnes handicapées, bien sûr, au niveau du Téléthon, mais il faut savoir que nos routes, comme tu disais, les rampes, les escaliers, etc., mais c'est aussi handicapant pour des personnes âgées, et c'est handicapant, par exemple, pour des mamans qui ont des poussettes avec des enfants et tout ça. Enfin, je veux dire, ça concernerait beaucoup plus de monde même que les personnes handicapées. C'est bien ce qu'on fait pour les, il faut faire pour les personnes handicapées, mais du coup, voilà, une maman qui est en poussette, enfin qui pousse une poussette avec ses enfants, des personnes âgées aussi. Moi, je promène beaucoup ma maman qui va avoir 90 ans. Ben, il y a des fois, je suis toujours obligée de faire attention pour les routes. D'ailleurs, elle est tombée il y a pas longtemps, parce que ben voilà, il y a les routes sont vraiment, enfin les routes et les trottoirs aussi. Voilà.
Il y a beaucoup d'obstacles qui pourraient être évités, mais énormément.
Alors, on parle du Téléthon dans le 94, mais Maya, qu'est-ce qui se passe à Villiers-sur-Marne? Parce qu'il y a Fatoumata, donc vous êtes vice-présidente fondatrice depuis 2012, et j'ai entendu dire que vous avez chanté avec le maire de Villiers-sur-Marne, je ne sais pas si c'était lui qui jouait l'accordéon.
Oui, oui, effectivement, depuis plusieurs années, j'organise le Téléthon, des animations Téléthon sur Villiers-sur-Marne. On fait des spectacles, et oui, le maire joue de l'accordéon, et moi je chante. Depuis plusieurs années, c'est un peu devenu une tradition à Villiers. Et cette année, on a aussi un événement le 29 novembre, où on va plus parler du handicap, de la recherche. Voilà, donc on a le 29 et le 30 novembre à Villiers, ça va bouger.
Concrètement, vous pouvez indiquer des lieux où ça va avoir lieu?
Oui, alors le 29 novembre, ça se situe à l'Escale, c'est un lieu de jeunesse où voilà, il y aura des débats, des quiz, des jeux, du spectacle. Et le samedi 30, il y aura du spectacle à la salle des fêtes de la ville, face à le Georges Brassens de Villiers-sur-Marne, où, où là, ça va vraiment être un vrai spectacle.
Alors, dans le 94, Amalia, c'est impossible de dire tout ce qui va se passer. Ça, je pense qu'il va y avoir des centaines d'initiatives. Nogent-sur-Marne, la mairie m'a envoyé un truc ensemble pour le Téléthon, au week-end à solidarité à Nogent, et j'ai vu quelque chose à cette heure-ci. Ça commence à faire un petit creux dans l'estomac. Déguster des soupes savoureuses, ni plus ni moins. Donc, il y a des initiatives, ça va dans tous les sens, dans le bon sens du terme.
Exactement. Vous vous référez soit sur le site internet de l'AFM Téléthon, où on reproduit toutes les animations qui a lieu dans tous les départements d'ailleurs, et aussi dans vos villes, hein, parce que donc en effet, c'est impossible à énumérer tout ce qui se passe.
Donc le mieux, c'est d'aller.
Allez-y. Ah oui.
D'aller directement sur les réseaux sociaux.
Oui, oui, sur les réseaux sociaux, sur le programme dans votre ville aussi, puisque donc c'est il y aura de tout, il y aura du sport, il y aura on pourra manger beaucoup de crêpes, hein, ça c'est le truc chaque année.
On vient manger cette heure-ci, on a faim.
Voilà, exactement. Dans les associations portugaises aussi, elles sont toutes vraiment
mobilisées,
voilà, un peu partout vous regardez. Moi je sais qu'à Alfortville, il y a un repas, à Champigny, il y aura des danses, à Fontenay-sous-Bois, c'est pareil, il y aura des danses. À Vincennes, il y a un très grand bal, etc. Non, il faut aller voir sur les sites, parce que c'est impossible à énumérer tout le monde. En tout cas, on les remercie, parce que toutes ces associations, c'est ce qu'on appelle, nous, les bâtisseurs cette année, c'est-à-dire on bâtisse la médecine de demain, et qui a commencé déjà, puisque comme vous l'a dit Maya, elle a bénéficié justement d'un produit qui l'a vraiment aidé, et on espère que ça l'aidera encore plus. Moi, je la connais depuis de nombreuses années, et elle est pleine de courage. Mais voilà, c'est mieux quand elle peut faire les choses un petit peu par elle-même. Elle est très indépendante.
Alors, par rapport... Tony, pardon.
C'est chouette. Non, je dis que c'est très bien, au contraire, de prendre ça, d'être indépendant, d'essayer tout au moins d'être indépendant et d'avancer.
Ah oui, parce que c'est... Ouais. Mine de rien, bon, c'est quelque chose, c'est un autre monde.
C'est pas donné à tout le monde d'être comme ça.
Mais alors, Tony, il y a plein d'associations portugaises. Alors, t'es portugais, on peut pas le cacher. Moi non plus. Bon, on assume, comme dirait l'autre.
Moi aussi, j'ai des origines portugaises, mes parents sont portugais.
Tout le monde a des défauts. Voilà, tout le monde a des défauts. Alors justement, le fait que les assos portugaises se mobilisent, bon, ça n'a pas toujours été comme ça au début.
Au départ, mais une fois qu'on a... Dès qu'on a commencé à collaborer avec Radio Alpha, ça s'est pas mal développé quand même. Mais les associations, il y en a pas mal qui participaient, mais un peu en silence, quoi. On savait pas qu'ils le faisaient.
Oui, ils le faisaient avec les mairies ou avec.
Oui, mais les gens s'aperçoivent aussi avec la communication. Ils savent, ils voient l'avancée qui est faite depuis quelques années, et donc ça encourage les gens. Et on n'est pas libre de. Moi, par exemple, je viens d'apprendre que j'ai un ami d'enfance, son petit-fils, il a, je crois, c'est la maladie du chêne au Portugal. On vient d'apprendre une personne de famille qui était très bien, c'est pas une maladie comme ça, mais bon, on vient d'apprendre qu'elle a la sclérose en plaque. Tu vois, c'est tout. On n'est pas libre d'avoir un problème de santé, d'avoir une maladie qui nous frappe à la porte. Et je pense qu'en aidant en faisant le Téléthon, en aidant la FM, grâce à la FM, il y a pas mal de maladies qui ont profité de ces avancées et de cet argent qui est donné pour la recherche.
Et d'ailleurs, on a toujours gardé l'affiche à l'entrée de la radio de 2023. Petit garçon, grâce au Téléthon, je marche.
Oui.
Voilà. Alors, mais par rapport au Téléthon, alors quelque chose de très important, c'est que bon, on fait pas n'importe quoi. Parce que pour organiser le Téléthon, il faut signer une charte. Ça, c'est très important, parce que derrière ça, bon, on sait qu'il y a toujours des profiteurs, des gens qui profitent de. Bon, la bienveillance ou bien la volonté d'aider et qu'on profite pour récupérer de l'argent. Alors, il faut dire que pour organiser le Téléthon, il faut signer une charte. Peut-être une petite explication, Maria.
Oui, certes. Tout le monde peut organiser une animation. Hein, c'est pas, ça peut être le particulier, ça peut être les mairies, les associations, etc. Tout le monde peut. Mais en effet, ils doivent se rapprocher de leur coordination. Donc moi, je représente le 94. Mon équipe et moi, hein, je suis pas toute seule, bien sûr. Et donc on voit les organisateurs, on les rencontre et on signe. Ils signent et moi aussi, je signe avec eux un contrat qui les engage, donc qui nous disent ce qu'ils vont faire comme animation, et ensuite ils en récupèrent, donc il y a la partie financière, donc soit des dons qui sont faits. Alors ça peut être fait de mille façons, hein. Les dons peuvent être faits sur place dans les animations, mais ça peut être fait sur des pages de collecte, ça peut être fait par téléphone, enfin voilà, il y a les animations, et il y a aussi toutes les crêpes qui seront vendues, voilà, Maya est en train de vous expliquer ce qui allait se passer à Villiers, ben voilà, il y a des entrées, etc. Et moi-même d'ailleurs, voilà, avec Maya, nous avons signé un contrat toutes les deux pour son engagement, et en effet, parce que tout le monde, on peut pas organiser comme ça une animation aussi connue que le Téléthon, qui donne l'envie, en effet, parce que là, franchement, la plupart du temps, c'est quand même, les gens sont des gens très sérieux et ont envie de participer au Téléthon, mais on est obligé quand même de cadrer tout ça. Et après, donc justement, ce qu'on fait avec Tony au moment du week-end du Téléthon, c'est qu'on va rencontrer ces animations et on regarde, malgré tout, on regarde si tout est bien fait. Comme ils le disent, il faut pas qu'il y ait des gens qui profitent, en effet, de ce moment-là.
Générosité des gens, voilà. Oui, parce que vous n'avez pas le droit de toucher à l'argent.
Ah non, pas du tout.
Donc, ça veut dire que l'argent est envoyé directement par divers moyens.
Oui, oui. Par la poste, par des associations comme Elo Asso.
Il y a le QR code aussi.
Il y a tout ça. Et nous, on ne récupère que les chèques, enfin nous les coordinations, on ne récupère que les chèques, donc c'est voilà qui sont envoyés. On fait le distinguo entre les dons et les recettes, parce que ça c'est différent. Un don, c'est quelqu'un qui donne de l'argent sans rien en échange. Une recette, c'est vous participez à un repas, vous mangez une crêpe, vous allez voir un spectacle. Ça s'appelle ce qu'on appelle une recette. Et c'est uniquement, alors c'est pas l'AFM, peu importe, puisque tout l'argent vient à l'AFM, mais c'est uniquement pour avoir un reçu fiscal. Et ça, évidemment, la fiscalité, elle est sérieuse. Et c'est vraiment un don, c'est un don. C'est
pas. Oui, mais d'accord, on fait un don de 100 euros. En réalité, on peut déduire 75%
sur le salaire de matin. 60%.
Donc ça revient à donner que 40 euros.
Oui,
c'est ça.
Maya, on parle d'histoire de sous. Ça n'empêche que c'est grâce aux dons que vous commencez à avoir, vous avez eu votre traitement, vous sentez qu'il y a des choses positives qui arrivent, mais excusez-moi, je suis peut-être un petit peu pessimiste, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est quand même dommage que ce soit la générosité publique qui aide justement des citoyens qui ont une déficience, qui ont un petit problème de santé. C'est pas malheureux finalement qu'on soit obligé de faire appel à la générosité publique.
Oh heureusement qu'ils sont là.
Oui,
heureusement qu'ils sont là, qu'on a beaucoup de solidarité dans notre population. Après voilà, c'est comme ça, on va dire. Moi, depuis que je suis née, j'ai toujours eu le Téléthon et j'ai toujours eu. Donc pour moi c'est normal en fait. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé peut-être un peu plus de soutien de l'État, mais bon, après
l'État ne peut pas tout faire,
donc et puis bon, c'est la solidarité des gens, c'est ce qui est le plus important, puisque dans le Téléthon c'est bien sûr le financier qui est le plus important, mais c'est tout l'engagement qu'on voit autour qui nous font du bien en fait en tant que malade, quand on voit que voilà tout l'engouement qu'il y a sur le Téléthon, psychologiquement ça nous aide beaucoup, parce que on voit qu'on n'est pas seul et on voit qu'on est soutenu.
Et en même temps, est-ce que finalement des gens, il y a toujours tous les ans des gens nouveaux qui viennent de participer aux initiatives, est-ce qu'après il y a des gens qui gardent en contact avec les associations, notamment avec Fatoumata, est-ce que finalement il y a des gens après qui font partie, c'est-à-dire qui rentrent dans le cercle un petit peu, d'organiser des activités pendant l'année, parce que c'est bien beau le Téléthon, c'est 2-3 jours, mais il y a les autres 362 jours de l'année, est-ce qu'au niveau de votre assaut, et autour de la mobilisation autour du Téléthon, est-ce qu'il y a des gens après qui continuent à travailler dans ce sens-là?
Ah oui, bien sûr. Ça ouvre les portes. Hein. Chaque année, on a des nouvelles associations qui nous rejoignent sur le projet. Et puis après, dans l'année, on se revoit et on fait plein de choses sur la ville. Donc oui, ça ouvre les portes et les personnes ne sont pas là que pour le Téléthon.
Oui, puis excuse-moi, il faut dire aussi que la force du Téléthon, justement, c'est tout ce que les gens ont donné. Bien sûr, c'est bien d'avoir conscience que c'est pour les chercheurs, etc. Mais c'est aussi bien simplement de faire une fête, parce que les gens ont besoin aussi de ça, ont besoin de se retrouver, ont besoin. Après, la personne qui va acheter une crêpe, elle pense pas forcément que cette crêpe va aider le chercheur, etc. Pourtant, si. Mais au moins, ils ont fait quelque chose en famille, entre amis, entre voisins. La force du Téléthon, c'est ça, c'est que les gens peuvent aussi participer et se dépasser, parce que à l'époque, on disait c'était de mettre nos muscles au service de ceux qui n'en ont pas. Et en fait, les gens, c'est ça, quand les gens vont danser, quand les gens vont courir, quand les gens vont jouer au foot, là, j'ai Abri, ils ont 24 heures de football, c'est que les gens veulent se dépasser et donner nos muscles au service de ceux qui n'en ont pas. Moi, c'est ce que je me dis tous les matins quand je n'arrive pas à me lever pour une raison X ou Y, hein, il y a l'âge, bien sûr, mais je me dis, allez, mets tes muscles au service de ceux qui n'en ont pas.
Moi, ce que je trouve extraordinaire, excuse-moi, c'est que c'est une fois par an au moins, c'est un élan de solidarité, mais extraordinaire. Ce sont deux jours de fête, en réalité, pour aider. Mais j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. L'État, il participe, parce qu'en réalité, il te prend moins 60% sur ton don. Donc, c'est une participation, mais qui est infime, en réalité. Parce que quand on voit ce que les États dépensent pour la guerre, ce sont des milliards, ce sont des trilliards. Et s'ils mettaient cet argent dans la recherche, ça fait longtemps sûrement que le cancer n'existerait plus et toutes ces maladies seraient vaincues. Et c'est ça que je trouve, c'est la folie des hommes. Les hommes ne pensent pas que demain ils seront plus là. Le pognon, il reste là. C'est tellement néant, c'est tellement rien. Comment les grosses têtes, les gens qui commandent le monde, qui dirigent le monde, n'arrivent pas à voir ça? Quand on voit des assassins, ces gens-là qui font les guerres, ce sont des assassins, des soldats, des jeunes personnes qui meurent pour rien, quand ils pourraient mettre tout au moins la moitié de cet argent au service du bien de l'humanité, quoi. C'est aberrant.
Bon, ça sera une autre émission, cher Tony Gum. On pourrait parler. L'hôpital a besoin. On revient à la maladie. L'hôpital a besoin.
La maladie a besoin d'argent.
Bon. Maya, une petite question quand même. Bon, il y a le Téléthon, c'est très important parce que il y a un début de traitement. Vous avez dit ça a commencé en 2022. Mais comment ça se passe autour? Parce que le Téléthon, c'est ponctuel. C'est pour aider la recherche. Mais il y a dans la vie tous les jours. Parce que le Téléthon, c'est pour aider à guérir et à trouver des nouveaux médicaments. Mais après, il y a la vie de tous les jours. Et comment ça se passe après? Parce que ça suppose plein de trucs. La mairie, l'assistance sociale, tout un tas de choses autour. Ça se passe, vous arrivez à... Parce que vous vous affrontez... c'est vraiment c'est la jungle. Hein. C'est difficile d'y rentrer dedans. Comment ça se passe avec vous?
Alors c'est vrai, on va pas dire que la vie est facile tous les jours, mais déjà faut savoir que le Téléthon c'est toute l'année. C'est pas que un week-end, c'est pour nous c'est toute l'année. L'AFM Téléthon nous aide au quotidien, c'est-à-dire que on donne l'argent pour la recherche, mais l'AFM nous aide parce que il nous aide à financer du matériel, il nous aide, il nous accompagne au quotidien. Donc c'est très important de souligner ça et on mord la vie à pleines dents et on y va, hein, on reste positif.
Tout à fait. Et d'ailleurs à ce sujet, je reporte à 2023 le don 117 millions d'euros, sauf erreur de ma part, Maria. Alors, il y a eu 53,3 millions pour guérir, à savoir, faire de la recherche des nouveaux médicaments, et 37,6 pour aider. Donc, ce dont on vient de parler, Maya, ça rentre plein dedans dans ce aider.
Oui, c'est ça. Dans l'AFM Téléthon, vous avez une partie des services, ça s'appelle les services régionaux, qui aident les malades, donc comme elle vous disait, soit pour avoir acquérir du matériel, soit pour la mettre en relation, donc comme elle a pu récupérer son chien Lover, ben c'est pareil, on a une relation avec Andy Chien, et voilà, c'est pas simplement, c'est en effet c'est toute l'année, mais comme nous, hein, moi c'est pareil, le Téléthon pour moi c'est toute l'année. Je crois que j'arrête à Noël et au jour de l'an pour faire mes fêtes en famille, mais autrement le Téléthon c'est bien toute l'année.
Ah oui, c'est dans nos gènes, déjà, c'est le cas des génétons, télétons, ouais. Et nos gènes aussi. Il nous reste 3 minutes à peine. Alors, monsieur le parrain, quel message pour 2024?
Ah ben, le message est toujours le même. J'espère qu'on battra le record cette année. C'est aider, parce que la recherche est en train de faire ses preuves. Et donc, c'est une raison. Une raison de plus pour participer.
Oui, pour faire grimper ce compteur. Hein. Faites grimper ce compteur. Oui, allez voir vos animations. Allez faire le 36-37. Allez, enfin, vraiment participer. Et vous voyez en plus qu'il y a vraiment des résultats. Là, on a la preuve vivante avec Maya, mais on en a eu d'autres. Et c'est important. Et c'est grâce à votre argent, à votre soutien. C'est grâce à vous. Le Téléthon, il faut se dire que c'est ça. C'est qu'on participe, nous tous, on participe au Téléthon et à toutes ces victoires, parce que c'est quand même beau. Alors oui, comme disait Tony, c'est dommage, il y a des gens qui pensent à la guerre et tout ça, mais il y en a d'autres qui veulent simplement que tout fonctionne.
Et c'est une belle histoire.
Alors, une belle histoire aussi, parce que d'autre côté de la vitre, en régie, c'est Maya Arouche qui est là. Donc, Maya, je vous laisse le soin justement dire au revoir à nos auditeurs et avec un appel, et je vous remercie encore d'être venu ce dimanche dans les studios Radio Maya.
Ah, merci à vous de nous avoir accueillis, ça fait très plaisir, et le message c'est venez à nos animations, faites le 36-37, faites des dons pour que l'espoir continue d'avancer pour nous et pour nous tous.
Voilà, je vous remercie. Et bon, vous êtes venu là. Rien n'empêche qu'on maintienne le contact pendant l'année, qu'on parle d'autres des choses au fur et à mesure que la recherche et les médicaments pour vous avancent. Ça, c'est très important parce que justement, vous êtes un espoir pour beaucoup de gens. Et merci à nouveau, Maya.
Merci à vous et pas de souci. On est là.
Merci.
Et on est là, nous aussi.
Merci, Arthur.
Merci, Maya. Merci.
Merci, Arthur. Merci, Radio Alpha.
Merci, Tony. Merci, Amalia. Et je rappelle donc, 36-37.
Ou sur toulestemps.fr. Et puis, voilà. Et aussi, juste rappeler des bons souvenirs qu'on avait sur Radio Alpha.
Oui, les fêtes qu'il y avait et tout.
Les fêtes qu'on a fait, les gens qui se rencontraient, on venait. Moi, j'ai moi-même qui chante très faux.
C'était très chouette.
Même si je m'appelle Amalia, voilà. Jusqu'à 1h, 2h du matin, on venait ici dans le studio.
Il y avait plein de choses à manger et à boire.
Voilà, c'était spontané. Oui, on a reçu des pastels de nattes par un boulanger qui écoutait Radio Alpha.
Ouais.
Et vraiment, c'est quelque chose qui nous manque énormément.
On a passé des
choses. Mais merci encore à Radio Alpha.
On va essayer d'y remédier pour 2025.
Voilà.
Je dis ça, j'espère que ce ne soit pas un vœu pieux.
D'accord.
Mais enfin, bon, merci. Et nous, on revient dans 5 petites minutes environ. On va avoir une pause en couleur.
Wow. Bonjour, c'est Mika. Les 29 et 30 novembre, je vous donne rendez-vous pour le Téléthon 2024. Vos dons sont essentiels. Ils donnent aux chercheurs les moyens de poursuivre leur travail extraordinaire. Pour soutenir cette recherche qui sauve et change des vies, faites un don au 36-37. Ou sur téléthon.fr. Je compte sur vous.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Et on revient au direct ce dimanche 24 novembre. On est en votre compagnie jusqu'à 14h. Maintenant, on va parler de projection de film, des débats. Le thème, la révolution en images, la révolution décolonisation au Portugal, 1974-1977, qui a lieu jusqu'au 19 décembre à Sorbonne Nouvelle, campus Nation, à Paris 12e. Raquel Schaeffer, bonjour.
Bonjour Arthur Silva.
Bom dia. Olha, esse ciclo, aliás, dentro de alguns instantes, penso que vamos ter também o Fernando Coropos. Precisamente, há que ver que este período, aquilo que vocês escolheram, 1974-1977, e filmes e os debates que vão haver à volta, corresponde a um período bem determinado daquilo que se passou em Portugal durante 3 anos, praticamente, não é?
Sim. Na verdade, nós, ao conceber o ciclo, deparamos com escolhas muito difíceis, dada a diversidade estilística, material, do cinema deste período, e decidimos escolher uma delimitação cronológica precisa, iniciar com os filmes realizados em 1974, portanto numa primeira etapa filmes que documentam o processo revolucionário, uhum. E terminar essa delimitação em 1977 com um filme que olha retrospectivamente já para a reforma agrária, depois da Lei Barreto, que põe fim a esse processo, a Lei da Terra, do coletivo Grupo Zero.
Ora, queria relembrar, por exemplo, o nome, Raquel Schaeffer, da Université Sorbonne Nouvelle, mas pas seulement, se je commence, o senhor começa, bom, lá estou eu soltar para o francês, mas enfim, isto já começa a ser de formação profissional. Mas temos alguém também connosco, agora já via telefone, da Université Sorbonne Nouvelle, Fernando Coropos, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde. Muito. E obrigado pelo convite.
Ora, é um dos co-organizadores, a Raquel já desbravou um bocadinho o terreno, de maneira que uma parte destes filmes podemos dizer que são filmes militantes ou não, Fernando?
Evidentemente que são, porque acontecem logo a seguir à Revolução dos Cravos, uhum. E a grande maioria destes realizadores eram militantes do Partido Comunista ou do Partido Socialista ou com ideais ligados à extrema esquerda. Claro que aquilo que filmaram foram imagens que tinham a ver com esse imaginário de revolucionário, mas revolucionário no sentido político, com uma dicção e um ideal que remetia para as ideias marxistas ou mesmo esquemas ligados a Engels e essas ideias maoístas também.
Ora, podemos dizer, Fernando, que de uma certa forma os filmes que passam nesta... Bom, não é uma retrospectiva porque está bem centrado do 25 de abril de 74 e a lei da reforma agrária do Sr. Barreto. Podemos dizer que finalmente é uma página da história cinematográfica portuguesa também, Fernando?
É também, claro que sim, que a grande maioria dos filmes foram realizados por realizadores e cineastas que antes tinham também uma produção para alguns e continuaram depois a produzir filmes. E só queria comentar assim que, de fato, essa retrospectiva está muito atrelada ao movimento do pós-25 de Abril, como comentou a Raquel Schaeffer, mas só temos também um filme que é um filme dos anos 2000, que, digamos, de uma certa maneira mostra a vertente mais atualizada dessa revolução, que é o de Capitães de Abril, de Maria Medeiros, uhum. É também uma visão mais discórica do movimento do pós, já que depois desse imaginário todo ligado ao 25 de Abril, claro que o PREC não atualizou esse imaginário todo ligado à esquerda, e claro que nos anos 2000 já tivemos uma direita mais liberal também em Portugal, uhum. E até chegar hoje em dia que há um partido pelo menos fascista, não é, que é o Chega.
Com efeito, bom, no espaço de 3 ou 4 anos passaram de 2 para perto de 50 deputados da extrema-direita no Parlamento. Mas enfim, ora, Raquel Schaeffer, precisamente agora falemos porque, bom, tudo isto já começou no dia 7 de novembro, como diz outro, nós apanhamos o comboio a andar, hein? Peço desculpa, mas enfim, por exemplo, falamos do período que vai até 77, a famosa Lei da Reforma Agrária. E não é por acaso que na quinta-feira, dia 28, às 18 horas, vai ver o filme Lei da Terra, feito pelo Grupo Zero, que data de 1977. Aí falamos, quando se fala da reforma agrária, não podemos esquecer o que se passou no Alentejo.
Sim, sim. A Lei da Terra é um dos filmes mais importantes, tanto a nível formal quanto enquanto documento histórico deste período. Foi realizado, como referi antes, pelo Grupo Zero, um dos coletivos mais ativos neste período, composto por 11 profissionais do cinema, entre os quais podemos contar dois cineastas muito importantes na história do cinema português, a Solvig Nordlund, sueca, que se instalou em Portugal depois do 25 de Abril, e o Alberto Seixas Santos, um dos grandes nomes do cinema português. E, portanto, A Lei da Terra é um filme que, como dizia antes, olha retrospectivamente para a reforma agrária, embora a decalagem temporal seja pequena, e que analisa as estruturas de poder e a luta de classes através de todo um conjunto de procedimentos estéticos e inventivos. O cinema da Revolução, no seu geral, apresenta filmes didáticos, marcados, digamos, por uma narração em voz off. Por exemplo, essa narração em voz off não existe na Lei da Terra. Tenta-se realmente dar a palavra aos trabalhadores agrários do Alentejo. É um filme realmente muito rico. E a propósito desse filme, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista ao Alberto Seixas Santos em 2014, se não estou em erro, antes da sua morte, e ele dizia, e cito, filmávamos a história, a reforma agrária era já um passado.
Com efeito, bom, uma vez que nós acabamos uma frase, ela já pertence ao passado. Ora, o passado, na quinta-feira, dia 5, eu vou avançando. De qualquer maneira, nas redes sociais podem ter o programa completo, com as horas e isso tudo, tudo o que se vai passar. Ora, na quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 18 horas, continua a ser na Sala de Cinema La Sorbonne Nouvelle, em Paris 12, aí são, não sei se podemos chamar, bom, são documentários, na realidade, Revolução, de Anna Aterly, Destruição, eu traduzi isto em português, de Fernando Calhau, Paredes Pintadas da Revolução Portuguesa, também de 75, e O Parto. De maneira que isto são que são flashes, podemos dizer, de uma situação bem concreta. Quando se fala de paredes pintadas da Revolução Portuguesa, a maior parte delas, bom, eram apagadas logo a seguir. Um comentário, Fernando?
Claro, essas paredes pintadas de que falam nem sempre foram apagadas depois da Revolução. Alguns, ainda em Lisboa, há alguns vestígios, resquícios dessas paredes pintadas. O que é preciso salientar nesses realizadores eram eles próprios, também artistas. Portanto, foi muito importante para eles filmar essa revolução das imagens nas paredes de Lisboa, porque era também uma maneira de fazer arte. E alguns desses murais foram realmente pintados por artistas da época. Yann Artelé, Fernando Calhau, claro, que queriam salientar essas imagens. E não se esqueçam que essas imagens eram também imagens didáticas, como os próprios filmes. Era preciso educar o povo, porque esse povo que saía do Estado Novo e do fascismo, em que o que reinava era sobretudo, enfim, não se podia falar, não se podia entender, não se podia compreender ideias revolucionárias. Portanto, era preciso educar o povo, não só através das imagens visuais, destes filmes, mas também realmente a partir de murais explicativos. E claro que estes filmes remetem para essa realidade.
Ora,
se puder acrescentar só uma coisa, Arthur, relativamente a esta questão. Portanto, esta sessão de 5 de dezembro visa, de alguma forma, reunir filmes que vêm do campo do cinema experimental. A Anna Aterly e o Fernando Calhau operavam no campo do cinema experimental. E através desse conjunto de 4 filmes, problematizar de que maneira a Revolução teve repercussões formais no campo da arte, na esfera artística. E ainda relativamente ao Paredes Pintadas da Revolução Portuguesa, é um filme que retrata um mural que foi realizado coletivamente por artistas, mas também por, digamos, anónimos. E esse filme, de alguma maneira, torna sensível a maneira como a arte respondeu à tentativa de coletivização dos modos de produção. Também podemos ler a formação de coletivos de cinema a partir desse prisma.
Sim, depois no domingo dia 8 eu vou saltando, peço imensa desculpa, e há muita coisa, vai-se falar a luta do povo, a alfabetização em Santa Catarina, aí é no Alentejo, ou ainda Diga-me o que é a ciência, que isto foi durante a dinamização cultural do movimento das Forças Armadas. Esta alfabetização e dinamização cultural dá muito para falar e pode fazer um bom debate, mas para concluir, bom, vamos até ao fim, quero referir à quinta-feira, dia 19 de dezembro, às 18 horas, continua a ser na Salle de Cinéma de la Sorbonne Nouvelle, em Paris 12. Adeus até ao meu regresso, principalmente com este filme. Há que não esquecer que o 25 de Abril aconteceu em Portugal, mas a origem vem da luta de libertação dos povos coloniais, ou que teram, sob o jugo do colonialismo, que é diferente. De maneira que este filme de António Pedro de Vasconcelos data de 1974, Adeus até ao meu regresso, isto tem a ver com o final, em princípio, da guerra colonial e o passado colonial e tudo isso, todos os problemas que levanta à volta do povo, não, Raquel?
Sim, o Adeus até ao meu regresso é um dos primeiros filmes realizados depois do 25 de Abril que problematiza, portanto, as guerras coloniais conduzidas por Portugal em Moçambique, em Angola e na Guiné-Bissau. É um filme, digamos, em que há uma certa sincronicidade entre o processo de descolonização e a própria representação cinematográfica. Por um lado, demonstra a que ponto o 25 de Abril é, no fundo, uma revolução africana, já que, como sabemos, o movimento das Forças Armadas, o MFA, era constituído por oficiais que tinham combatido na guerra, mas, por outro lado, também é um filme que procura refletir de uma maneira bastante precoce sobre os processos de trauma. E uma das primeiras sequências do filme mostra a chegada de um avião com militares que vinham dos territórios onde se combatia a guerra. É um filme muito rico, enquanto uma das primeiras representações do trauma colonial na sociedade portuguesa, porque é preciso pensar, tal como fez o Frantz Fanon, que o colonialismo não tem apenas consequências psicológicas sobre o colonizado, mas também sobre o colonizador. E é um tema que, como sabemos, continua a ser bastante tabu na sociedade portuguesa ainda hoje.
Sem esquecer que os desertores e refratários, para muitos militares e não só para muitos civis, ainda continuam a ser tratados de traidores à pátria. Bom, isso é outra história. Ora, lembras, a maior parte das projeções serão na Salle de Cinéma de Sorbonne Nouvelle, Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé, Paris 12e, mas também algumas no Cinéma L'Écran de Saint-Denis, 14 Passage de l'Aqueduc, à Saint-Denis. Ora, para assistir, a entrada é gratuita, mas para as pessoas que não têm a carta da Sorbonne Nouvelle, aí é necessário fazer uma inscrição. O que é que se passa, Fernando?
Sim, é preciso registrar-se através do site da Sorbonne, que aparece no programa, tanto no programa quanto no cartaz do ciclo, mas basta mesmo só aparecer na entrada e dizer que vai para a Cinemateca e a pessoa nem precisa registrar-se neste site. Dão entrada é livre. Queria só salientar a respeito desse último filme, Adeus até o meu regresso, que para o ano é preciso lembrar que vamos comemorar também as independências das ex-colónias portuguesas em África e também vai haver uma série de eventos organizados aqui em França a esse respeito e contrataremos a Rádio Alfa para lembrar também. Este evento.
É mais do que isso, antecipar e falar nas coisas antecipadamente e depois poder acompanhar, ter se há realizadores, se há atores, se há intervenientes políticos ou outros, que possamos acompanhar precisamente essa vossa iniciativa. Raquel Schiffer e Fernando Corupos, muito obrigadíssimo e, como diz o outro, já é o hábito de dizer bom vão a esta iniciativa.
Obrigado.
Muito obrigada, Artur.
Obrigado. E nós, já que falámos à volta do 25 de Abril, não se esqueçam que no dia 4 de Dezembro vai haver a inauguração da exposição Marias de Abril, Leia o Feminin, da artista plástica luso-americana Melanie Alves, e durante a inauguração vai lá estar uma senhora que dá por nome de Garota Não. E, bom, o nome de cena é o nome de cena de Cátia Oliveira. E o tema que escolhemos foi ela, que se chama Canção a Zé Mário, estamos a falar de Zé Mário Branco, que foi gravado ao vivo numa praça, penso eu, em Setúbal.
Agora é para cantar.
Há quem seja comum, há quem não tenha assunto. campo. Há quem traga mais um, há quem traga um conjunto. Porque a força que traz tem o povo na frente. E ser ondas que faz resistência à corrente. Derramar na canção o que dói no país. Ser a revolução, ser a boca que diz. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida. Que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida. Que deserto tão grande. Daqui toda vaidosa. Liberdade, querida liberdade. O nosso chão tem sonhos e vontade.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 24 de novembro, emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Pois bem, meus amigos, vamos ao cinema. Trata-se do Festival Olá Paris, a primeira edição do Festival de Cinema Português aqui na capital. Paris, do 29 de novembro até o dia 1 de dezembro. A abertura vai decorrer no final da tarde de sexta-feira, dia 29, com a presença da madrinha, trata-se de Maria Medeiros. Um certo número de filmes, já entrevistamos um certo número de realizadores na semana passada, hoje continuamos a maratona no bom sentido do termo. E agora vamos até muito, muito longe, mais concretamente até ao Japão. Trata-se de uma longa metragem de Cláudia Varjão, que data já de 2016, Amassan. Um pequenino extrato, precisamente, da banda anúncio. Cláudia Varjão, muito boa tarde e obrigado por ser em direto na Rádio Alfa.
Ora viva, boa tarde, como está?
Tudo bem. É um prazer também para mim de poder falar consigo, na medida em que este filme eu tive a felicidade de o ver no canal franco-alemão Arte. Precisamente, eu tive essa, pacifiquei, eu não vou falar, há fotografia, há toda uma série de coisas, mas sobretudo o que eu fiquei maravilhado é o mundo de mulheres que fazem coisas que nem os homens têm medo de o fazer. Ora, talvez explicar um bocadinho, onde é que filmou isto, porque trata-se de uma comunidade de mulheres que são pescadoras, bom, que vão debaixo d'água, precisamente, sem instrumentos nenhuns.
Ora bem, elas chamam-se Ama. Ama em japonês quer dizer pessoa do mar.
Uhum.
E é uma tradição milenar, tem uma longa data de existência.
Uhum.
E consiste em mergulho, em apneia, ao fundo do mar, portanto, para apanhar mariscos, iguarias. E durante um período elas ficaram muito conhecidas, nomeadamente na década de 50, 60, porque apanhavam ostras e as suas pérolas e, portanto, enriqueceram bastante durante esse período. Hoje em dia já não há ostras, elas apanham outro tipo de marisco, um marisco muito caro que está intocável a grandes profundidades.
Uhum.
E é uma prática que, curiosamente, é só praticada por mulheres. Eu, quando estive a fazer a investigação, lembro-me de, a certa altura, eu fui perguntando, tanto a elas como aos homens que ficavam em terra, porquê é que são as mulheres a mergulhar? E elas não sabiam responder, e eles respondiam de uma forma um bocadinho machista e bastante expectante já da minha parte, que era, é porque as mulheres têm mais gordura e aguentam melhor o frio. Isto parece anedótico, mas a verdade é que esta tradição acontece em vários pontos costeiros do Japão e não há homens a mergulhar. É só feito por grupos de mulheres. É muito fascinante, de facto, porque vemos o corpo da mulher a qual estamos habituados ainda mais no Japão, à ideia do doméstico, do sensível, do frágil, e vemos estas mulheres que hoje em dia vestem uns fatos de borracha, uns fatos de mergulho, antigamente mergulhavam sem nada, nuas, mas quando as vemos hoje em dia nesta era contemporânea com estes fatos, elas parecem ninjas do mar, ficam altamente empoderadas, e portanto eu quando as descobri, eu não descansei enquanto não fiz este filme.
Ora, essas mulheres que afirmou tinham entre 50 e 85 anos, e algo de extremamente interessante é que há três gerações que levam a cabo essa pesca submarina.
Neste filme eu quis muito ter personagens com idades muito distintas, porque também é distinto o porquê de elas fazerem este trabalho. A mais velha, que era esta voz que nós ouvimos agora do trailer e que já morreu entretanto, era a mais velha da embarcação e tinha 80 bichos, já não sei precisar, mas era a que tinha começado a fazer mergulho porque a mãe e a avó já faziam, portanto uma espécie de herança de tradição. As outras, as gerações mais novas, fazem-no porque vivem primeiro em vilas pescatórias, onde há pouco trabalho, há trabalhos sazonais, ou de turismo, de restauração, e este trabalho é um trabalho que muito poucas mulheres escolhem. Porquê? No filme talvez não se sinta assim tanto, ou então sentimos pela nossa própria consciência, mas é que é um trabalho altamente perigoso. Todos os anos morrem muitas mulheres presas no fundo do mar, ou nas rochas, ou nas algas. Há muitos problemas de saúde associados, problemas pulmonares, problemas de audição. Portanto, é um trabalho de alto risco. E, portanto, hoje em dia há muito pouca procura. Consta, aliás, que é uma tradição que está em vias de extinção, o que é uma pena, porque ela, para além de ser bela, tem uma coisa muito importante para a nossa vida contemporânea.
Uhum.
É uma pesca sustentável. Não se pesca mais do que aquilo que é suposto. Porque é pescado um a um, não é? Cada peça de marisco que é apanhada é uma a uma. E, portanto, isso permite que o mar continue a ser um lugar de vida e que continue a alimentar as vidas humanas e também a outra fauna. E é uma pena que esta tradição esteja a desaparecer, como tantas tradições artesanais no mundo todo estão a desaparecer, não é?
Com efeito. E trata-se de boas tradições, dizia eu, nada tem a ver com aqueles que dizem antes é que era bom. Cláudia Varejão, obrigadíssima.
Obrigadíssima a todos os ouvintes, um abraço e espero ver-vos lá no festival.
Sim, vai ser no sábado, depois, exatamente. Dia 30 de novembro, a partir das 14 horas, e a Cláudia Varejão vai lá estar. Uma pequena pergunta anexa, mas teremos a ocasião de falar nisso. Cora, que vai ser estreado no Cinamed em Bruxelas, precisamente um dia deste, podemos ver este filme aqui em Paris ou não?
Eu espero que sim, estamos a trabalhar para isso, espero muito que sim, porque é um filme com uma causa que nos diz respeito a todos, todo o mundo está a assistir a este flagelo de todo mundo fora, que é o fluxo dos refugiados, estes horrores que assistimos todos os dias. É um filme que acompanha algumas mulheres refugiadas em Lisboa e eu tenho muito, muito gosto e sinto-me o dever de fazer este filme circular, portanto espero que ele chegue a Paris também em breve.
E nós também. Mas os nossos ouvintes que moram na área de Lila, nós somos ouvidos em DAB+, chamada a Rádio Digital, de maneira que podem dar um soltinho até a Bruxelas. Isso vai ser só ver da minha parte, no dia 3 de dezembro. Cláudia Varejão, muito obrigada e damos encontro aqui no próximo sábado, então.
Muito obrigada.
Obrigada.
Até
a próxima. Vamos deixar agora o mundo submarino, vamos deixar o Japão e vamos até ao norte de Portugal. Nem mais, nem menos, um filme que data já de 2022, que foi estreado aqui no ano passado, e precisamente o filme tem o título, em francês é Traça, em português era Restos do Vento, um filme de Tiago Guedes.
Sim, eu juntamente com o Tiago Rodrigues, com quem escrevi o argumento, queria mesmo refletir um bocadinho sobre a violência, sobre as origens da mesma, e obviamente fomos parar a essa incapacidade que nós enquanto sociedade temos para lidar com a diferença e com os outros muitas das vezes. Por isso foi um pouco esse o objetivo. Depois os rituais de passagem e as tradições surgem um bocadinho também para criar um enquadramento da forma como às vezes também é preciso irmos refletindo exatamente sobre essas tradições também.
Sim, porque quando se fala de tradições, bom, há cultura que está por trás disto, é uma maneira de olhar para o mundo e no filme, bom, há coisas que aparecem assim, para já o machismo. O lugar que as mulheres têm naquela sociedade é incrível e o pior de tudo é que é implícito, parece que há uma aceitação implícita, como se, bom, é normal, porque há fracos, há fortes e isso, quer dizer, a sociedade está de uma tal maneira que as pessoas, bom, vivem aqui à volta do medo, é o medo que faz com que as pessoas não reajam.
Sim, eu penso que é exatamente isso, eu acho que o medo é uma das coisas mais impulsionadoras da violência. Se nós virmos os animais muitas vezes reagem por causa do medo, não é? E eu acho que o medo que nós vamos construindo à volta e os preconceitos que vamos criando acerca do mundo que nos rodeia provoca uma violência que muitas vezes, se analisássemos, se parássemos para pensar, se calhar não haveria razão nenhuma para ela existir. Mas ela existe de algo que nasce dentro de nós, não é? Portanto, foi um pouco, sim, eu acho que isso tudo faz sentido.
E a propósito precisamente dessas tradições e por aí afora, é que todas as tradições deste género, bom, está a falar realmente ao filme, têm em comum uma forma de poder sobre os outros seres humanos, ou seja, sobre as mulheres. E ao que parece, é daí que viria a masculinidade tóxica. Está implícito no seu filme, é mais do que implícito.
Sim, não, isso está lá muito claro. Nós temos aqui o exemplo de uma tradição pagã, não é? Uma tradição ancestral que já vem de há muito tempo, mas nós podemos rever isso em coisas mais próximas, por exemplo, as praxes académicas também são o exercer da humilhação sobre os mais frágeis, não é? Sobre aqueles que estão mais vulneráveis. Portanto, eu acho que isso está implícito, e até podemos traduzir isto para empresas, muitas vezes, ou as pessoas que chegam muitas vezes sofrem uma espécie de pressão ou de... E existe esta coisa de os mais fortes exercem um poder sobre os mais frágeis, não é? Na nossa sociedade. E eu acho que isso também é um reflexo do tal medo, do medo do que é novo, do que é diferente, de quem é que vem, pronto. Da masculinidade.
Masculinidade, exato, depois.
Sim. Completamente, porque isso ao longo dos tempos sempre foi surgindo, não é? E eu acho que Felizmente se está a acordar um bocadinho para essa realidade, mas ainda há muito, muito, muito a fazer, porque os reflexos estão no dia-a-dia, a forma como esse poder exercido pelos homens, e eu nem quero dizer só pelos homens, mas são pelas características que normalmente são mais masculinas do que femininas. Uhum. Nós sempre valorizamos muito mais isso, não é? Valorizou-se sempre a força e a fragilidade sempre foi algo mais escondido e condenado quase, e tentar repudiar isso. E eu acho que está na altura de tentar valorizar essas características que são muito importantes e acho que poderiam tornar um mundo melhor.
Tiago Guedes e o filme Trace.
Trace,
Restos dos 90 é o título em português deste filme de Tiago Guedes. Entrevista realizada no ano passado, passamos um pequenino extrato. Tiago Guedes, que está presente precisamente com Isabel Abreu e Alban Jerónimo, dois atores do filme, no Festival Olá Paris, dia 30 de novembro, sábado, a partir das 17 horas. Eles vão estar lá e podem debater com eles sobre o tema do filme. Agora vamos deixar o Norte de Portugal, vamos até uma cidade no Reino Unido. Então aí o mundo é completamente diferente.
Vamos pedir para mostrarem os dentes, e depois as mãos, e depois os membros superiores. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito.
Não dormi nada esta semana, isto parece uma caserna, os três enfiados num quarto.
Eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
Um filme de Marco Martins, o título Anatoma Yarmouth. Um filme que foi feito, ao princípio havia outro projeto sobre isto, mas uma coisa certa, um ambiente de escravidão de imigrantes portugueses no Reino Unido. É uma ficção, mas ao mesmo tempo é também uma realidade, na medida em que foi na base de um certo número de testemunhos que Marco Martins fez este filme. Mas ouçamos.
Que era uma antiga estância balnear, que progressivamente foi sendo abandonada, com os voos low cost e com a capacidade da classe média inglesa também ir para destinos, digamos, mais exóticos, como Portugal ou Espanha, etc. E, portanto, foi uma cidade que teve o seu auge nos anos 40 e depois foi progressivamente sendo abandonada, mas que tinha ainda imensos hotéis e uma capacidade de instalar pessoas, digamos assim. E o que acontece é que as fábricas locais, que são sobretudo fábricas de transformação animal, de perus e galinhas, começaram a usar essa vila, na verdade é uma vila, Great Yarmouth, para instalar os trabalhadores, primeiro que iam trabalhar por algumas temporadas, e depois houve uma comunidade portuguesa que se começou realmente a instalar em Great Yarmouth. E eu fui convidado, como essa associação que tinha muita curiosidade e muita vontade de integrar essa comunidade portuguesa dentro da comunidade inglesa, até porque na altura começou-se a falar do Brexit, etc. E, portanto, havia uma certa inquietação no ar. Fui convidado a visitar essa vila e a desenvolver um projeto com a comunidade portuguesa, um projeto de teatro, teatro comunitário. E eu, enquanto estava a desenvolver esse projeto, que começou a ficar evidente para mim que eu queria construir uma ficção a partir daqueles testemunhos e construir um filme, uma obra que fosse inspirada naqueles inventos, mas que de alguma forma nos transportasse para locais que não existiam na peça ou que não existiam naqueles testemunhos, como as fábricas, aqueles lugares, os hotéis abandonados, etc. E nasce um pouco daí este...
A Marco Martins, ouvimos, aliás, a história, a vocês passam-nos os passaportes, quando se forem embora, eu devolvo-vos. Isto faz-nos lembrar o Catar, tudo aquilo que se passa nesses países todos. O quarto pago adiantado quando chegam. A questão da comida e para aí fora. Agora, não é por acaso que neste filme não se vê a luz do sol. De maneira que é uma coisa extraordinária. Dás-nos conta do ambiente, que é um ambiente opressivo, e depois há um paternalismo, portanto, a personagem da Tânia, que é a Beatriz Batarda, a mãe, A mãe, como se costuma chamar. É uma personagem tão ambígua, parece que nela se resume o filme. Ela é fria, cínica, sem piedade, é exploradora e que finalmente acabou isso. Deixamos ver o filme, evidentemente, porque é incrível essa exploração toda, e as pessoas, haviam sempre vagas e novas vagas de pessoas que estavam a ver uma situação social em Portugal impossível, de maneira que é caso para perguntar, isto já em finais de, já em 2020, em que mundo nós estamos a viver, não é? É incompreensível, não?
É incompreensível, sim. Eu acho que é este neoliberalismo selvagem, não é? Da livre exploração de pessoas, na verdade, e é uma nova forma de escravatura, na verdade. Aquelas pessoas... E Ray Tiarmat, para mim, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei muito impressionado, porque havia pessoas de todos os estratos sociais, pessoas que tinham já trabalhado em fábricas, mas também havia professores do secundário, havia pessoas que nunca tinham trabalhado, jovens que nunca tinham trabalhado, e aqueles eram o primeiro emprego, e que estavam desesperadas por ter um emprego, e portanto aquilo era um bocadinho o último recurso, ir para emigrar, e emigrar para aquele lugar escuro, porque além de ser já bastante a norte, e portanto haver poucas horas de sol, o trabalho inicia-se às 6 da manhã, mas a fábrica ainda é distante, ainda há uma distância de autocarro, portanto eles acabam por acordar às 4 da manhã, começar a trabalhar às 6 da manhã para sair de noite, e portanto essa ideia de facto nunca se ver a luz do sol do dia e ser quase zombies. A ideia que eu tinha quando estava naquela vila era que eu só via os portugueses à noite, e era a chegar da fábrica ou ir para a fábrica, e não os via na vida do social do dia-a-dia. Portanto, havia essa zumbificação, chamemos assim, desta classe de trabalhadores.
Nem mais, nem menos. Marco Martins, o realizador do filme Anotum, na Great Yermut, um filme que data de 2023. A entrevista também. Este filme vai ser projetado às 21 horas, no sábado, dia 30 de novembro. Agora vamos para um livro. Voltamos ao sábado igualmente. Um livro que vai ser apresentado, ou vai ver dedicatórias, às 10 horas da manhã. Ora, precisamente, para aqueles que queiram ir tomar o pequeno almoço até lá, isto vai se passar no Cinema Club de Toulouse, 14 Rue Troyon, a Paris 17, partindo do Arco de Triunfo. Com efeito, vai ser Ana Maria Torres que vai lá estar, que é autora do livro Terra Fria, publicado pela Lagrange Batelière. Ana Maria Torres, bonjour.
Bonjour.
Terra Fria, vous allez faire des dédicaces, ça sera, sauf erreur de ma part, le 30 novembre à partir des 10h du matin, c'est ça? Samedi.
Exactement.
Alors, voilà, donc vous allez avoir le droit à un petit déjeuner avec pastéis nat et tout et tout.
Ah, trop bien, je ne savais pas, donc je suis ravie de le savoir.
Voilà, vous êtes au courant. Terre Fria, on peut dire que c'est un petit peu un retour aux sources, c'est un retour, je ne sais pas, à votre famille, à un petit village, mais plus que ça, c'est une façon de vivre, non?
Oui, Terra Fria, c'est un livre qui parle donc d'un petit village au nord du Portugal, et à travers ses traditions, ses saisons, ses manières de vivre, que ce soit la cueillette des olives, le ramassage des pommes de terre ou le carnaval.
Et en même temps, il y a des souvenirs de jeunes femmes au milieu de tout ça. Il y a la mère, il y a la fille. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu, raconter un tout petit peu, parce qu'il faut lire le livre.
Donc dans Terra Fria, il y a donc deux personnages, Madalena et Marta. Il y en a une qui décide de partir de son village pour aller immigrer. L'autre, des années plus tard, décide, elle, de revenir aux origines, de revenir à la terre de ses ancêtres. Et à travers ces deux voyages, ces deux parcours, c'est toute une histoire au féminin de l'immigration portugaise qui se dessine, et aussi une histoire de la campagne portugaise, de la campagne du Nord, avec ses traditions.
Mais en même temps, c'est un portrait du village, de votre village, si on peut le dire, et en même temps, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, parce qu'il y a un passé, on dirait que le présent, bon, il y a un décalage énorme, la vie change complètement au village.
Oui, bah déjà le fait que les gens partent beaucoup avec l'immigration, il y a eu un exode massif, et donc les campagnes se sont beaucoup vidées, et beaucoup ne reviennent plus, même s'il y avait cette idée de revenir après des années de travail, beaucoup décident de rester parce qu'ils ont fait leur vie en France ou ailleurs. Ils ne reviennent que le temps d'un été, donc c'est vrai que ce que je voulais montrer aussi, c'était cette campagne qui s'est un peu figée dans le temps, les gens disparaissent de plus en plus, où les souvenirs disparaissent aussi avec ces personnes-là. Et donc, c'est une manière un peu de cristalliser avec ce roman toute une histoire, tout un passé qui existe et qui peut être encore préservé.
Oui, parce que le passé, votre livre, il n'est pas, comment dire, nostalgique d'une certaine période, parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une émigration énorme dans cette région, et un peu partout du Portugal, d'ailleurs.
Oui, oui. Pour moi, après, on a toujours la question de la nostalgie, de la saudade, mais ce que je voulais, ce n'était pas de faire quelque chose de passéiste, mais plutôt quelque chose de l'ordre du souvenir, mais de l'ordre aussi de rappeler des choses, de se souvenir, pour que chacun, en lisant, se remémore quelque chose et essaie peut-être aussi après de transmettre, de raviver en fait ce passé-là.
Et en même temps, ça parle du statut des femmes, hein, parce que ça c'est très important, parce que pendant le fascisme, les femmes étaient réduites à faire des enfants, quoi, en sorte d'être la bonne à tout faire.
C'est important pour moi de mettre du point de vue féminin, parce que pour moi, j'ai été beaucoup, beaucoup élevée par des femmes. Et c'est toujours les femmes de ma famille qui m'ont un peu transmis ces histoires-là. Mais c'est toujours un peu des histoires cachées, dans le sens où c'est quand même une terre où les gens parlent peu et s'expriment plus par les gestes, les gestes du quotidien, les gestes de la campagne, la cuisine, les travaux des champs. Et à travers ça, en fait, c'était aussi une manière de montrer que c'est aussi un labeur autant féminin que masculin, et que la place des femmes est primordiale dans la société portugaise, dans la société du nord du Portugal, et qu'il faut pas, ce sont des voix qu'on entend assez peu généralement, et c'est important pour moi de parler de ces voix-là et de les exprimer.
Voilà, donc nos auditeurs, ils ont plus qu'à être à partir de 10h du matin, justement au cinéma L'Étoile, qui se trouve au numéro 14 rue Troyon, Paris 17e, et justement Ana Maria Torres va y être avec son livre Terre Fria, qui a été publié par La Grange Batelier.
Je vous invite à venir donc samedi matin. Merci beaucoup, Arthur.
Samedi matin, 30 novembre, à 10h, dédicace. Alors, il faut dire aussi qu'il va y avoir un petit déjeuner, un petit peu à la portugaise. Je rappelle, Festival Olá Paris, première édition, du 29 novembre au 1er décembre au Cinéma Club de l'Étoile, rue Troyon, 14 rue Troyon, Paris 17, à deux pas de l'Arc de Triomphe. On va quitter la région parisienne, et bien, on ira jusqu'à Bordeaux, ni plus ni moins, au sujet du livre Justice Sousa Mendes, dans la collection Figure de Nouvelle-Aquitaine des éditions Memoring, et avec nous l'auteur, Monsieur Éric de Petiteville. Bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour et puis merci de votre invitation sur vos ondes.
Alors, vous avez été au festival, je cherche mon papier, je m'excuse, au Festival international du film d'histoire de Pessac, que vous avez même présenté votre livre et tout ça. Dans votre livre, on va voir, parce que avec votre livre, on a un petit peu tout l'historique, savoir qui c'est Justice Sousa Mendes et tout ça. Mais comment il faut dire que vous êtes pas historien à la base, puisque, sauf erreur de ma part, vous êtes ophtalmologue. Justement, cette découverte Justice Sousa Mendes.
Tout à fait. Alors moi, je l'ai découvert en tant que Bordelais. Je suis Bordelais, né 20 ans après les événements, à quelques encablures du consulat du Portugal de l'époque qui se tenait sur les quais de la Garonne. J'ai toujours essayé de comprendre ce qui a pu se passer dans cette époque, en juin 40, lorsque ma ville natale devient à nouveau la capitale de la France. Le gouvernement s'y réfugie, ainsi que des centaines de milliers de réfugiés, des réfugiés, des juifs bien sûr, mais également des communistes, des démocrates allemands, des autrichiens après l'Anschluss, des tchèques après l'annexion des Sudètes, des polonais après l'invasion de la Pologne. Tout ce monde se croyait à l'abri des Maginots, se retrouve à Bordeaux, et l'action de Aristides Mendes m'apparaît un peu comme une lueur d'espoir au milieu de cette période très trouble.
Alors justement, parce qu'il faut dire que lui, il a désobéi aux ordres, quand même, aux ordres du président du Conseil portugais, Monsieur Salazar.
Tout à fait, il désobéit. Et alors donc, mon livre s'adresse en fait à des personnes qui ne connaîtraient pas Sousa Mendes, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas Sousa Mendes. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas Sousa Mendes, qui ne connaîtrait pas l'histoire du Portugal, de la Seconde Guerre mondiale, du rôle des uns et des autres à cette époque-là. Et j'ai fait également un parallèle avec Sousa Mendes et le général de Gaulle. En juin 40, le gouvernement français se réfugie à Bordeaux, juste à côté du consulat du Portugal. Le 17 juin, lorsque Aristides commence à signer ses visas, les visas que signe Sousa Mendes, en fait, il y a huit jours cruciaux, c'est du 17 juin au 27 juin 1940, et bien parallèlement, le général de Gaulle commence l'épopée de la France libre. Le 17 juin, le maréchal Pétain prend le pouvoir et le général de Gaulle quitte Bordeaux à bord d'un avion pour aller en Angleterre. Il dit non lui aussi, parallèlement, à quelques centaines de mètres de là. Le consul du Portugal dit également non. Le 23 juin 1940, par une étrange communauté de destin, alors que le général de Gaulle est dégradé de son grade de général, de brigade, eh bien Sousa Mendes est déchu de son poste de consul. Il n'a plus le droit enfin, ses visas sont déclarés nuls et non avenus. Voilà, donc deux personnes qui disent non. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Aristides Sousa Mendes, mais un petit parallèle quand même avec le général de Gaulle et l'histoire de France.
Oui, tout à fait, parce que il y a 18 juin l'appel du général de Gaulle, mais justement Aristide Chosemange à Bordeaux. Alors, il a sauvé beaucoup de monde, mais lui, finalement, bon, le déclarant Saint-Lazare, a mis le consul à l'époque, à Bordeaux, dans la misère, parce que Aristide, il est fini dans la misère totale.
Oui, il a été sanctionné par son gouvernement. De retour au Portugal, il pense en fait qu'il suffira d'un entretien avec Saint-Lazare, au nom d'une foi chrétienne qui leur croit commune. Mmh. En fait, c'est sa foi chrétienne qui a dicté son action. Hein, Montesquieu, qui est un philosophe bordelais, dont la statue trône à juste à côté du Conseil de Portugal, a déclaré que la force de la religion, c'est qu'on y croit, tandis que la force des hommes, eh bien, c'est qu'on la craint. La loi des hommes, c'est qu'on craint la loi des hommes, on croit à la loi de Dieu. Mmh. Et Sousa Mendes a préféré croire à la loi de Dieu plutôt qu'à celle de Saint-Lazare.
Voilà, de sa conscience. Monsieur Éric de Petiteville, merci. Je rappelle votre livre, Aristides Sousa Mendes, son titre, Le Consul portugais de Bordeaux qui sauva 30 000 vies en 1940, publié par des éditions Memoring. Et il y a le préface de Antonio de Moncada de Sousa Mendes. Alors, si on peut discuter avec vous, échanger des impressions. Ça sera à Paris, sauf erreur de ma part, le jeudi 28 novembre, 18h30 jusqu'à 20h, au 50 rue Laborde, Paris 8e.
Exactement. Donc, j'ai eu le privilège de rencontrer Antonio de Moncada de Sousa Mendes, qui fait partie qui est un des 39 petits-enfants d'Aristides, et qui a, entre autres, avec d'autres frères, enfin d'autres cousins, pris à sa charge de perpétuer la mémoire de son grand-père, et qui m'a fait l'honneur de rédiger la préface de mon livre.
Merci bien, et on se donne rendez-vous donc le 28 ici à Paris.
Merci à vous.
Merci, et je dis bon vent à Bordeaux, je vais dire bon vin, consommé avec modération, mais enfin, bon, vous avez des bonnes choses à boire et à manger dans ce coin-là, bon, et à cette heure-ci, on a faim. Merci, monsieur Eric de Petiteville.
Merci à vous, à vos auditeurs.
Au revoir. Et on a pratiquement en train de terminer cette émission. Je rappelle le passage à niveau. Rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Eh bien, au Musée de l'Homme, à partir du 27 novembre de cette année jusqu'à juin 2025, il va y avoir une expo événement Migration, une odyssée humaine, avec la présence de qui, entre autres, de Philippe Villejoie. Philippe Villejoie, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, merci. Cette fois-ci, vous n'êtes pas dans les studios. Bon, ça change un petit peu les choses, parce que c'est autre chose dans le direct, quand on est face à face. Alors, pour présenter Philippe Villejoie, un artiste, bon, je pourrais dire que c'est un artiste multicarte. C'est impossible de le caser où que ce soit. Un artiste conceptuel, autodidacte. Il joue de la porosité entre le monde IRL et URL. Sans oublier, bon, une critique, vous êtes un petit peu satirique parfois. Ce que concerne le progrès technologique, installation, vidéo, performance et tout ça, sans oublier sociologie, littérature, astronomie, musique, bon, c'est tout ça. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va avoir de Philippe Villejoie au Musée de l'Homme, place de Trocadéro?
Alors, au Musée de l'Homme, en fait, ils font une exposition sur la migration depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mmh. Et ils ont découvert... l'année dernière, que je développais un dictionnaire des langues vivantes, et en particulier des mots que tous les gens inventent quand ils mélangent deux langues. Le dictionnaire s'appelle fusionnaire, et j'ai eu cette idée quand j'étais petit, parce que ma mère mélangeait le portugais et le français, et elle nous faisait éclater de rire en créant ces mots-là, et on disait que c'était des barbarismes, mais en grandissant, j'ai compris que c'était des mots... des mots qui étaient nouveaux, tout simplement. C'est pour ça qu'ils nous faisaient rire. Et que surtout, les langues évoluaient comme ça, en étant en contact les unes avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a très peu de mots. La langue française accepte surtout l'académie, met beaucoup de temps à intégrer des nouveaux mots. Et je me suis dit, bon, laissons l'académie faire son travail de son côté et travaillons à faire un dictionnaire qui rassemble tous les mots que les gens créent tout le temps. Alors, ça peut être du français. Ça peut être du franco-portugais, ça peut être du franco-japonais, ça peut être du luso-italo. Ça peut être n'importe quelle combinaison, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de découvrir aussi la culture des autres en regardant un peu leurs protéines linguistiques, et bien sûr en développant le langage que moi j'ai entendu dans ma communauté franco-portugaise en France, qui se fait moquer à la fois en France et à la fois au Portugal. Quand on est au Portugal et qu'on invente des mots et qu'on dit des mots à moitié français, on est un peu la risée de tout le monde. Mais en fait, ce rire-là, il est. Moi, j'ai envie de le conserver, j'ai envie de le garder, et j'ai aussi envie de porter un autre regard sur ces mots-là, parce que en fait, demain, c'est les mots. Ce seront peut-être les mots de tout le monde, tout simplement.
Voilà. Oui, parce que vous trouvez qu'il y a de la poésie dans ces mots, sans oublier la joie de la multiculturalité. Alors, on avait parlé ici longuement du fusionnaire, un dictionnaire participatif. On avait lancé à l'époque un appel, justement, que les gens envoient des mots, que les gens ils envoient même des propositions, etc. Est-ce que ça avance, ce dictionnaire participatif, où est-ce qu'on en est?
Et oui, ça avance pas mal. Il y a aussi le documentaire qui est en cours de tournage. Je profite d'ateliers que j'organise autour de cette question pour tourner aussi des interviews. Il faut d'ailleurs que je tourne l'interview de ma mère qui m'a inspiré l'idée. Et du coup, je pense que je vais encore me laisser une bonne année, si ce n'est deux, pour éditer une première version papier, puis peut-être que dans 3-4 ans, je ferai d'autres éditions. Mais voilà, pour moi, c'est un projet un peu au long cours que je vais continuer de nourrir tout le temps, je pense. Et je suis content aussi de découvrir d'autres combinaisons. C'est-à-dire que moi, je suis parti de la combinaison franco-portugaise, mais là, je découvre plein de nouveaux mots dans tout un tas d'autres communautés. Alors, la France a plein d'immigrés polonais, italiens, marocains, algériens, sénégalais. Et du coup, c'est aussi intéressant d'aller jeter un œil dans ces mots-là qui se créent dans ces familles-là. Parce qu'en fait, les histoires sont les mêmes et puis les méthodes sont les mêmes aussi. Il y a des petites opportunités phonétiques, il y a des ressemblances, il y a des choses qui se créent par accident. Il y a plein de choses très, très amusantes, je trouve. Et qui disent nos origines, qui disent toutes nos identités, et c'est aussi, je pense, intéressant de les assumer pleinement toutes ces identités, et de pas rougir de nos racines et au contraire de les revendiquer. Moi, je suis très heureux de ça.
Voilà. Et d'ailleurs, je vais lire un texte. L'espèce humaine s'est construite à travers des métissages, des contacts, des échanges et des rencontres. Et on va avoir un extrait, justement, du commentaire associé polyglotte, quand les langues s'en mêlent, et qu'on pourra voir, au Musée de l'Homme, je rappelle, dans le cadre de l'expo événement Migration, une odyssée humaine, du 27 novembre 2024 jusqu'à juin 2025. Encore une référence, mais j'espère pour avoir davantage de temps pour parler, c'est un projet d'alphabétisation, je dis bien alphabétisation, à partir des dessins des enfants. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu?
Oui, bien sûr, le projet il s'appelle Fabla, mmh. Et l'idée c'est d'apprendre à lire et de raconter des histoires aux enfants, mais en partant de leurs dessins, c'est-à-dire que les enfants tous les jours ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, et les parents n'ont pas forcément le temps, et du coup... avec des amis, on a créé cette application qui s'appelle Fabla. On prend le dessin en photo, on identifie ce qu'il y a sur le dessin et on génère avec de l'intelligence artificielle une histoire, une fable de 2-3 minutes qui utilise les ingrédients du dessin pour développer cette histoire, alors de manière audio, et en même temps on peut lire et apprendre comme ça mot à mot. Le langage dans lequel on le génère, puisque l'application elle existe en français, en portugais bien sûr. Et la dernière fois on avait parlé justement de la difficulté de trouver les professeurs pour que le portugais soit enseigné en France et ailleurs. Et ben là c'est un outil qui peut potentiellement être comme les applications comme Duolingo par exemple qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sur l'apprentissage des langues. Là c'est un jeu en fait, c'est un jeu. Qui fait que les enfants sont naturellement très désireux de lire parce que c'est pas n'importe quelle histoire qu'on va leur raconter, c'est une histoire qui part de leur personnage, de leur dessin, donc forcément il y a un intérêt supérieur à découvrir quelle est cette histoire.
Et vous avez déjà mis ça en pratique, vous faites ça avec des écoles, dans quel cadre exactement?
Alors aujourd'hui l'application a été créée avec mon frère Christophe et un ami d'enfance, Benjamin, qui est aussi d'origine portugaise. Et là, on est en train de rentrer dans les écoles, effectivement, pour raconter aux enfants comment on raconte les histoires et qu'en retour, les enfants, ils aient le contrôle sur l'algorithme qui nous disent, bah, nous, on aimerait plutôt des histoires comme ci ou comme ça. Et comme ça, on fait un peu l'inverse de ce que font les boîtes noires, les algorithmes américains. On fait des algorithmes dont on donne le contrôle aux utilisateurs. C'est ça qui nous intéresse.
Ah donc, ça veut dire que, comme dirait l'autre, c'est l'arroseur arrosé, là.
Exactement. Exactement.
Et bon, on a toujours peur. Bon, maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Il y a tout un tas de moyens techniques. D'après vous, c'est pas la technologie elle-même qui est dangereuse, c'est l'utilisation que l'homme fait de la technologie.
Ah ben en fait ça dépend de ce qu'on veut faire effectivement. Le problème de l'intelligence artificielle souvent c'est que ça se base sur tout un corpus de données. En fait si on veut par exemple entraîner une intelligence artificielle sur un domaine, on va accumuler un maximum de données sur ce domaine. Sauf que même ce maximum de données très souvent il comporte des biais en fait. Il comporte des biais, donc si on fait pas attention à ce qu'on donne à manger au système, en fait on le nourrit mal et du coup on crée une intelligence artificielle qui potentiellement génère des choses encore plus biaisées puisque initialement les données comportent des biais. Et puis au-delà de ça, je dirais que l'informatique ça reste des mathématiques et les mathématiques c'est une des manières d'appréhender le monde, c'est une des manières de le saisir. L'humanité on en a d'autres. Et c'est toujours intéressant de se dire que oui, d'accord, on peut essayer de statistiser, d'abstraciser le monde avec les mathématiques, mais ça n'est qu'une manière de le saisir. Encore une fois, nous les humains, on a tout un tas d'autres outils émotionnels, cognitifs, intuitifs, qui font qu'on comprend le monde et qu'on agit à l'intérieur. Et réduire tout à la technologie et à l'informatique, je trouve que c'est toujours un peu dommage. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser justement dans des cadres d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, on sait émuler le langage, Donc si on sait émuler le langage, ça veut dire que on peut avoir des professeurs qui peuvent nous aider à minima un petit peu sur l'apprentissage de la langue, par exemple.
Oui, le tout, c'est qu'on aille le contrôle tout ça et qu'on n'en profite pas pour nous faire un lavage de cerveau. Bon, c'est une autre affaire. Philippe Villegebeau, je vous remercie. Donc, on pourra voir votre dictionnaire, les langues fusionnées, à savoir le fusionnaire, ainsi qu'un extrait du documentaire associé Polyglotte, quand les langues s'en mêlent. Ça, au Musée de l'Homme, du 27 novembre jusqu'au mois de juin 2025, dans le cadre de l'expo événement Migration, une odyssée humaine. Philippe, merci. Et bon, au moins avec vous, ça nous réconcilie avec la science, avec l'informatique, avec tout ça, etc. IRL, URL. Des fois, on se perd là-dessus, mais enfin, vous êtes là pour mettre les choses en place. Merci, Philippe.
Obrigado.
Obrigado, un grand abraço. Então. E estamos a chegar ao final desta passagem de euro de domingo dia 24 de novembro. Um grande obrigado ao Manuel Alexandre, que teve que ceder a regi, como se costuma dizer, à nossa convidada, a Maia Aluz, que estava, brinquei há bocado a dizer, o comando, mas não foi exatamente isso, mas enfim. Dois anúncios ainda no capítulo do filme, e para aqueles que tenham a tarde disponível, a partir das 16 horas, podem ir até o MK de Beaubourg, pertinho do museu do mesmo nome em Paris, com o filme, um documentário, aliás, de Pierre Primetan, um jovem de origem portuguesa, que é foto retrouvé, precisamente onde ele volta à infância, para compreender exatamente tudo aquilo que aconteceu, agressões e por aí afora. Um filme interessante que passa hoje, relembro, no MK de Beaubourg, às 16 horas, mas igualmente amanhã, segunda-feira, dia 25, às 14h30, no MK de Beaubourg também. Agora, um encontro no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Trata-se de uma sessão de informação. O título, Os Meus Descontos e a Reforma em Portugal. Quinta-feira, dia 28 de novembro, às 18 horas, no Consulado-Geral de Portugal em Paris. A informação que será assegurada pelo ADI da Segurança Social, Pedro Pacheco. E sabemos que a partida para a reforma com aqueles que trabalharam em Portugal ou noutros países e não só em França, é um bico de obra, de maneira que aqui podem ter informações, pois não digam que não estão informados. Enfim, bem-ajam e espero regressar aqui no dia 1 de dezembro.